Ma vision du voyage, c'est forcément c'est partir à la découverte de l'autre. Moi, je suis un photographe humaniste. Ce sont les hommes qui me touchent dans le monde, dans le voyage. Je vais à la rencontre de l'autre. Et en fait, je me sers de la photographie comme moyen de communication pour aller vers l'autre. Hein. Parce que quand tu débarques dans un village, eh ben, tu ne sais pas trop quoi dire, tu connais pas les gens, tu te souris, tu repars. Alors qu'avec la photographie, eh bien, c'est un prétexte pour aller vers l'autre, pour le photographier. C'est un moyen de communication qui est extraordinaire. Et je me sers de la photographie donc pour communiquer avec l'autre. La mission d'un photographe voyageur, pour moi, c'est transmettre, hein. C'est partager ce que je vis sur le terrain, la chance des rencontres que je peux avoir. Je dois ramener ces images pour partager ces rencontres. Je considère qu'une photographie de voyage, en tout cas dans mon style, hein, je m'intéresse à photographier les gens de manière positive. Je ne dénonce pas le monde. Je ne parle pas de ce qui ne va pas. Mon parti pris photographique en tant que photographe voyageur, c'est de montrer la beauté du monde. Donc ces images, je vais les avoir, je vais les faire en sorte qu'elles soient rayonnantes, qu'elles rayonnent à leur retour auprès des gens ici, qu'elles transmettent, qu'elles véhiculent quelque chose de positif et de beau, qu'elles fassent aimer l'humanité. C'est ça mon but.
Vous venez d'entendre le témoignage du grand photographe Olivier Folmy, qui nous parle de sa vision du voyage et de sa mission de photographe voyageur. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et vous écoutez le sixième épisode de la huitième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on parle photographie voyage et des photographes voyageurs. D'où vient la photographie de voyage? Comment est-ce qu'elle a évolué jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les codes narratifs de la photographie de voyage? Comment construire son projet? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité, le photographe Brice Portolano. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Eh ben c'est parti, sixième épisode de cette huitième saison, Benjamin du podcast, deuxième partie de cette huitième saison, après une courte pause régénératrice, comment vas-tu ce matin?
Salut Arthur, pause presque hivernale, hein. Vu la météo, ouais. L'envie de partir loin. Ça fait très plaisir d'entendre les mots d'Olivier Folmy. Moi, personnellement, j'avais adoré la plupart de ses livres, et notamment Conseil d'un photographe voyageur, dans lequel il y avait plein de petites astuces.
Truc,
ouais, tout petit bouquin qu'on pouvait prendre avec soi. Mais bon, ça date. C'est une vision de la photo de voyage qui commence à avoir quelques années aussi. Et c'est toujours intéressant de mettre en parallèle ça avec celle de notre invité du jour.
Salut Brice, comment vas-tu?
Très bien, merci. Ça va très bien.
Alors, est-ce que les mots de Olivier résonnent en toi? Est-ce que pour toi, la photographie de voyage, c'est un moyen de communiquer?
Alors oui, la photo de voyage, pour moi, c'est aussi une formidable excuse pour partir à l'aventure et pour rencontrer des gens. Alors effectivement, quand on revient de voyages un peu lointains, les proches, les amis ont souvent beaucoup de questions. À la fois technique et aussi à la fois vis-à-vis des rencontres qu'on a pu faire, qu'il s'agisse de cultures proches des nôtres ou très éloignées. Et de pouvoir montrer des images, ça permet justement d'accompagner ces récits et de montrer vraiment ce qu'on a vécu. Et ça, c'est très précieux. Sans photos, les voyages n'auraient pas la même saveur. Il y a cette partie-là. Et puis, il y a aussi le fait que plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, de revoir ces photos, de les trier, de les retravailler, de les classer pour faire des livres, des expos ou simplement pour se replonger dedans. Ça permet de revivre le voyage d'une manière complètement différente, avec du recul. Et c'est quelque chose de très plaisant.
Bon. On va parler de tout ça, évidemment, au cours de cette émission. Brice, si tu le veux bien, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Donc, tu es photographe professionnel depuis plus de 10 ans avec un rayonnement international. Tu as été formé à la Sorbonne et au Gobelin, d'où tu es sorti en 2013. tu signes un travail d'auteur et un travail de commande pour la presse et la publicité. Parmi les prestigieux et nombreux commanditaires, on peut citer par exemple Le Monde, Le Figaro, The Guardian, Fisheye, Six Mois, Les Others, National Geographic Traveler, mais aussi Air France, Columbia, Aigle ou encore BMW. Tu pratiques le reportage, le paysage et le portrait. Tu es un photographe de terrain, un photographe voyageur et tu t'intéresses particulièrement à la relation entre l'homme et la nature. Tu signes plusieurs ouvrages et de nombreuses expositions. En 2021, le beau livre « Nos Signal » édité chez Webeke, qui porte sur les hommes et les femmes qui ont changé de vie pour se rapprocher de la nature, ouvrage qui a d'ailleurs été traduit en allemand, anglais, japonais et coréen. Et en 2022, plus récemment, dans la collection du Petit Atlas hédoniste aux éditions du Chêne, un ouvrage consacré à la Norvège. Est-ce qu'on a bien résumé ton parcours ?
Tout à fait.
Parfait.
Super collection d'ailleurs.
Ouais, c'est très beau.
Petit hédonisme. J'en ai un sur l'Islande et le Japon. C'est vraiment magnifique.
C'est très bien fait. Ouais, y a un bon graphisme derrière. C'est bien monté.
Allez, on attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma et Tamron se lancent enfin sur la monture Canon RF. Sony annonce un nouveau zoom grand-angle lumineux. Seven Artisan propose un 50 mm tilt shift. Et enfin, on connaît les résultats des SWPA 2024. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Il était temps. Sigma et Tamron viennent tous deux d'annoncer le développement et l'arrivée imminente d'optiques en monture Canon RF. Au total, ce sont 7 optiques qui vont être déclinées dans l'année, 6 chez Sigma et 1 chez Tamron. Particularité qui risque de décevoir beaucoup d'utilisateurs d'hybride Canon, il n'est question pour l'instant que d'optiques couvrant l'APS-C. Chez Tamron est concerné le zoom grand-angle 11-20 mm f2.8 3A RXD et chez Sigma la série de focales fixes DGDN f1.4 en gamme Contemporary, incluant le 16, le 23, le 30 et le 56 mm, ainsi que les zooms 10-18 f2.8 et 18-50 f2.8. Aucune info sur le prix et la disponibilité du modèle Tamron, et Sigma annonce l'arrivée dès le mois de juillet prochain du premier 18-50 mm et dans le cours de l'année, probablement à l'automne, les autres optiques annoncées. Désormais, on attend de pied ferme les optiques full frame Sigma et Tamron en monture Canon RF. Cela risque de prendre encore un certain temps. Sony a annoncé une nouvelle optique full frame en gamme G pour Gold. Il s'agit d'un zoom orienté grand angle 16-25 mm disposant d'une ouverture constante f2.8 et qui complète à merveille le 24-50 mm f2.8 annoncé il y a quelques mois. Au programme, une formule optique composée de 16 lentilles réparties en 13 groupes avec 3 verres ED, 3 lentilles asphériques et une lentille ED asphérique. Un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une distance de mise au point de 18 cm au grand angle et donc un rapport de grossissement maximal de 0,23 fois. Côté construction et ergonomie, on retrouve une conception renforcée contre la pluie et la poussière, un bouton personnalisable et une bague de réglage du diaphragme continu ou cranté. L'objectif est léger avec environ 400 grammes sur la balance et compact avec un encombrement replié de 9 cm. Le nouveau Sony FE 16-25 mm f2.8G sera proposé en mai au prix de 1 399 €. Toujours dans le domaine des optiques, Seven Artisan, le constructeur chinois, annonce une focale fixe de 50 mm ultra lumineuse f1.4 qui a la particularité de proposer des bascules et décentrements, si chers par exemple aux photographes d'architecture. Cet objectif qui couvre le format APS-C est décliné en plusieurs montures, Micro 4 tiers, Fujifilm X et Sony E. Il est tout en métal et exploite une formule optique très simple, 7 éléments répartis en 6 groupes. Il reste compact et léger, comptait un poids d'environ 360 grammes et une longueur d'un peu plus de 7 cm. On retrouve un diaphragme circulaire à 12 lamelles et une distance minimale de mise au point de 50 cm. Le Seven Artisan 50 mm f1.4 TS pour tilt shift est proposé au prix de 212 €. Et enfin, pour terminer, on connaît le palmarès de l'édition 2024 des SWPA pour Sony World Photography Award, dont la remise des prix s'est déroulée il y a quelques jours à Londres. Cette année, pour cette 18e édition de la compétition internationale, la France est particulièrement à l'honneur. le prestigieux prix du, ou plutôt de la photographe de l'année, a été décerné à Juliette Pavy pour son projet documentaire consacré au programme de stérilisation forcée des femmes du Groenland entre 1966 et 1975, mis en place par les autorités danoises. Notons également que la photographe Mae Ellip remporte le premier prix dans la catégorie environnement pour sa série intitulée Echoes of Hive et que Thomas Meureau remporte le premier prix dans la catégorie sport avec sa série Calde Sol ou Soleil Froid. Enfin, cette édition a également mis à l'honneur l'immense photographe Sebastião Salgado que nous avons reçu à ses micros pour une mémorable émission au coin du feu et qui a reçu le prix de la contribution remarquable à la photographie. On écoute le témoignage de Yann Salmon, le gagneur, à la tête du marketing de Sony Europe, nous parler de son admiration pour la carrière et les engagements de Sebastião Salgado, qui résonne avec l'ambition zéro carbone de la marque à horizon 2050.
Au Sony World Photography Award, on a une récompense qui s'appelle la contribution exceptionnelle à la photographie. Donc ça récompense une carrière d'un photographe exceptionnel. Quand on pense à Salgado, les mots qui viennent à l'esprit, c'est une légende. Personnellement, moi j'étais en école de photo il y a une trentaine d'années, à Louis Lumière. À cette époque-là, Salgado était déjà un mentor ou une référence pour nous, quelqu'un que tous les étudiants aspiraient à copier ou à reproduire. Donc quand on pense à la carrière qu'il a eue, moi en tant qu'étudiant, il y a plus d'une trentaine d'années jusqu'à aujourd'hui, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est une première chose. C'est le travail accompli durant toutes ces années. C'est une cinquantaine d'années, je crois, de travail qu'il a fait. Donc rien que par son travail, c'est exceptionnel. La deuxième chose, et bien entendu, hein, je ne vais pas nommer tous ses travaux, mais les travaux sur les mines d'or au Brésil, qui sont un de ses premiers gros travaux en 86, c'est des images absolument exceptionnelles et qui dureront à travers le temps. Et l'autre partie qu'il faut voir sur Sebastião Salgado, c'est son engagement pour la lutte pour l'environnement. Salgado a créé une association qui s'appelle Institution Terra, qui est une association qui plante environ 2 millions d'arbres par an et qui a aussi une pépinière. Donc il annonçait aujourd'hui qu'il a une production de plus de 500 000 arbres par an dans sa pépinière et qu'il compte atteindre les 2 millions d'arbres supplémentaires dans l'année prochaine. Et ça a une résonance toute particulière avec Sony et complètement en phase avec le travail qu'on fait pour la route pour zéro émission carbone qu'on s'est fixée à 2050. Donc pour raccourcir, d'ici 2050, Sony aura zéro émission carbone. Et à travers ce programme-là, il y a évidemment l'énergie renouvelable, l'utilisation de l'énergie renouvelable. Il y a aussi des emballages très spécifiques qu'on appelle OBM, Original Blended Material, qui sont des emballages complètement faits de produits recyclés, donc de papier recyclé, de pousses de bambou qui ont été utilisées pour créer du sucre que nous, nous réutilisons pour faire des emballages. Mais c'est aussi le Sorplast, qui est un plastique, on va dire, ingénieré, je ne sais pas si ça se dit. Et le Sorplast est fait de 99% de recyclage de plastique et qui est en fait utilisé dans les boîtiers photo Sony, mais également aussi dans les téléviseurs. Et donc c'est un matériau très très haute qualité qui est fait pour l'industrie de l'électronique. Et tous ces engagements que Sony a sont complètement en phase avec l'engagement aussi de Salgado. Donc l'ensemble du travail que Salgado a fait à travers ses années, ses photographies et son engagement était en résonance parfaite avec les croyances de Sony, le support qu'on veut donner aux photographes professionnels. Donc bien évidemment, un honneur absolument phénoménal pour Sony d'avoir Salgado qui supporte au jour de la mission du SWPA.
À noter que l'on vous prépare très prochainement une émission spéciale SWPA avec Guillaume Cuvillier de Sony France et la grande lauréate Juliette Pavy. Voilà pour cette actualité assez dense de reprise, Benjamin. Je nous félicite que notre campagne de lobbying acharnée ait enfin porté ses fruits et que l'on voit enfin arriver ces fameuses optiques Tamron et Sigma en monture Canon RF. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Bah écoute, oui, on l'a appelé de nos voeux. Finalement, ça arrive enfin. Moi, c'était une question de temps, mais c'est important pour les possesseurs qui ont investi dans une monture, de pouvoir avoir des perspectives, un horizon et de se dire qu'il y aura plus d'offres que celles du constructeur à l'initiative de la monture. Donc c'est un premier signe très très positif. Maintenant, il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que ça se décline et notamment que des modèles pour le plein format arrivent. Mais le signal est là et on ne peut que s'en réjouir.
Benjamin, tu étais à la remise des prix des SWPA.
T'as donc revu, recroisé Sebastião Salgado. Moi, personnellement, c'est un des souvenirs les plus mémorables de notre petite carrière de podcasteur, cette émission qu'on a fait avec lui dans ce studio.
Oui, bien sûr. On recroise de temps en temps Sebastião, et toujours un bon mot, toujours très aimable. Là, tous les confrères étaient très émus de le voir. Il y avait quand même plus d'une centaine de journalistes venus des quatre coins du monde. Et quand il a pris la parole devant toute l'assemblée, on sentait que les gens avaient conscience d'être en face d'un monument de la photographie. C'est bien d'honorer les monuments de leur vivant aussi. Et donc, c'était très, très beau. Puis, c'est la saison des festivals. Le SWPA a bien grandi. Ça fait quand même 18 ans que ça existe. Mais j'étais à la première édition à l'époque au festival de... Lapsus, c'était à Cannes, au Palais des Festivals. Et c'est devenu un événement majeur. Et cocorico cette année, avec trois lauréats français, tu les as cités. Donc je me réjouis qu'on ait Juliette bientôt à ses micros pour qu'elle nous parle de la manière dont elle a travaillé sur ce sujet de fond, qui n'est pas évident, assez lourd. Et surtout aussi comment les photographes pros aujourd'hui se préparent pour les concours, pour les bourses qui leur permettent pour la plupart du temps d'avoir un petit peu plus de temps pour mener à bien ces projets.
Bon, et puis dans la série des festivals et des remises des prix, moi j'étais il y a quelques jours seulement à la cérémonie de clôture de la 14e édition du Nikon Film Festival. Donc là, il ne s'agit pas de photos, mais de vidéos, de courts-métrages. Et le thème imposé cette année était le feu. Bon, c'était une soirée... paillettes, glamour,
au Grand Rex,
au Grand Rex, comme d'habitude. Un concours qui était présidé par Quentin Dupieux, quand même. Et cette année, les lauréats du Grand Prix du jury ont attribué au film Le Plein, signé Charlie Moreno. Voilà, que vous pouvez d'ailleurs découvrir et voir sur le site officiel du festival et évidemment sur la chaîne YouTube qui lui est associée.
Toi, tu participes à des concours un petit peu de temps en temps ou
Pas trop. C'est vrai que ça prend pas mal de temps de monter des dossiers. Je l'ai eu fait il y a quelques années, mais c'est vrai que maintenant, je le fais pas trop. Mais il faudrait. C'est pas une bonne chose de faire un pas.
Il y a des belles sommes en jeu quand même. Hein.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en général, je suis pas mal pris à la fois par les commandes et les projets perso et il manque le temps de faire ça.
C'est une vraie organisation, une vraie logistique. Ouais. On en parlera avec Juliette à ses micros, entre autres.
Et dans la série des célébrations et des awards, alors, il y a aussi une grande cérémonie qui s'adresse plus aux constructeurs, pour le coup, avec les prix TIPA 2024.
Ah oui, l'école des fans.
Voilà, l'école des fans des TIPA 2024. On connaît les lauréats. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Hein. Nikon reçoit la distinction du meilleur boîtier plein format professionnel avec son Z8. Lumix reçoit la distinction du meilleur boîtier micro 4 tiers professionnel avec son G9 Mark II. Vous retrouvez d'ailleurs des émissions spéciales sur ces deux boîtiers dans nos archives. Fujifilm reçoit la distinction du meilleur boîtier moyen format avec son GFX 100 Mark II et du meilleur appareil photo compact avec naturellement le désormais célébrissime X100 Mark VI. Et enfin, Sony reçoit la distinction du meilleur boîtier APS-C expert avec son A6700. Tout ça pour dire que le laboratoire photo Whitewall, partenaire du podcast, reçoit pour sa part le prix du meilleur labo photo avec le procédé Whitewall Ultra HD Sharpening for Black and White Photo Prints. Cette technologie d'accentuation unique couplée à une imageuse de dernière génération permet d'obtenir une richesse de détails exceptionnelle et des résultats parfaits sur trois types de papier argentique Ilford en brillant, mat ou baryté pour des tirages noir et blanc. Et bien pour l'occasion, on vous propose un petit concours et on vous donne la chance, la possibilité de remporter un tirage noir et blanc Whitewall réalisé avec cette technologie Ultra HD. C'est très simple, vous pouvez choisir le format, le type de papier et les finitions de votre tirage. Pour participer, c'est très simple. Cela se passe comme d'habitude sur notre compte Instagram. Il faut commencer par suivre les comptes de Faut pas pousser les ISO et de Whitewall_lab et répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante. quelle est la taille de tirage maximale possible en noir et blanc sur papier Ilford avec la technologie Ultra HD offerte par le laboratoire Whitewall. C'est très simple, vous trouverez normalement la réponse sur le site de Whitewall, sur la page concernée. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le ou la lauréate qui sera contacté par DM et invité à nous partager son expérience lors d'un prochain épisode. Attention, vous avez jusqu'à dimanche prochain seulement pour participer. Bonne chance à tous. On clôture le Flash Actu sur ces mots et on passe à la suite avec ta story, Benjamin. Et cette semaine, tu nous parles d'un voyage dans l'Hexagone où il est question de circuits courts et de gens attachés à leur terre et aux produits alimentaires de qualité. La story vous est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall.
Dans son premier livre, Voyage en terre de semences, le photographe Mathieu Chanel nous emmène au centre de la Terre. Il n'est pas question ici des aventures scientifiques souterraines rocambolesques chères à Jules Verne, mais d'une galerie de 20 portraits de paysannes et paysans qui œuvrent dans l'agriculture biologique à travers la France. Une démarche qui rappelle forcément celle d'un des plus célèbres photographes français, même si Mathieu Chanel revendique une approche et un regard plus optimistes.
De mon point de vue, c'est l'agriculture de demain et souvent on a un espèce d'imaginaire autour de l'image agricole. On a la statue du commandeur derrière nous, il y a Raymond Depardon, qui lui faisait, dans ses séries Profil Paysan, qui sont des images superbes, mais qui lui faisait le constat un peu amer et nostalgique d'une agriculture qui s'éteignait. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui rentre de plein fouet dans l'avenir. Et donc, j'aime bien montrer moi des images un peu colorées et des gens qui sont contents de faire ce qu'ils font, quoi.
Selon lui, les acteurs dans le monde de l'agriculture biologique ont depuis longtemps saisi l'urgence d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique.
Les agriculteurs bio aujourd'hui sont bien plus conscients, je pense, que la majeure partie de nos concitoyens, même hors milieu agricole, ont beaucoup plus conscience des enjeux climatiques, de la rapidité qu'il va falloir qu'on ait pour réagir. Ça fait 30 ans qu'on parle de réchauffement climatique, mais là, ça commence à s'accélérer. Et l'agriculture biologique est une des réponses. Je pense que ces agriculteurs-là, très tôt, ils se sont dit comment on peut faire pour faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'en fait, faire du lait, faire pousser des légumes, en ayant un impact le moins invasif et le moins compliqué sur le territoire.
Le jeune auteur s'est nourri des œuvres humanistes et sociologiques de photographes tels que Richard Dumas, Denis Dailleux et Claudine Doury en participant à leur workshop. Sans idéaliser la condition des agriculteurs bio, il les voit comme des aventuriers du vivant et des combattants du bien manger.
Souvent, les humains sont vraiment au centre de la photo. Il y a une certaine beauté aussi à l'espèce de chorégraphie des gens qui travaillent. Ce que j'ai aimé montrer dans ce projet-là, c'est montrer que les gens ils ont tous des parcours différents, mais en tout cas, ils ont une seule et même envie, c'est de s'intégrer dans leur territoire pour pouvoir en vivre. Oui, c'est un métier qui est dur, ils sont dehors. Quand il fait froid, il faut sortir quand même. Enfin, voilà, c'est un métier qui a une dureté parce qu'en fait, c'est un métier manuel. Leur travail a un sens et je pense que c'est ça qui change tout, en fait. Ils ont trouvé le sens, en fait, à donner à leur travail.
Voyage en terre de semences paraît à l'occasion des 20 ans d'AgroSemences, une maison semencière spécialisée dans les semences reproductibles 100% bio. Un voyage tout en couleurs, très documenté, grâce à la plume de Florence Lonck, qui laisse entrevoir des possibilités de lendemain moins moroses pour un secteur en souffrance depuis de longues années.
Mais dis-moi, Benjamin, il y a un autre parallèle entre Depardon et la thématique de notre émission aujourd'hui ?
Oui, le travail de Mathieu Chanel donc, fait penser à Profil Paysan. Il en a parlé de manière un petit peu plus colorée, un petit peu plus enthousiaste. Et Depardon, qui était un très très grand voyageur, une toute partie de sa carrière, progressivement est retourné un petit peu à ses origines. Lui qui est né à la ferme du Garret, il se concentre de plus en plus ces dernières années sur... la France, sur ses habitants. Et c'est vrai que revenir au local, même quand on aime voyager, ça peut avoir du bon. Et là, en l'occurrence, ce regard, ce jeune regard de Mathieu Chanel, qui est aussi graphiste, fait du bien et puis montre que ce retour à la ruralité, c'est pas une utopie. Alors que Le monde de l'agriculture connaît une grave crise, hein, on l'a vu même en début d'année, il y a eu d'importantes manifestations, mais il y a quand même un monde dans lequel il est possible d'exister, de vivre de l'agriculture, en tout cas de l'agriculture bio quand elle est pratiquée de manière raisonnée.
Brice, on parle beaucoup de bilan carbone, de voyage en train, en vélo. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu es particulièrement sensible? Et par exemple, est-ce que tu voyages beaucoup en France aussi?
Moi, j'ai un peu un rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'avion et qu'on soit obligé de prendre...
Ah, ok, on est sur un radical. Super, on y va.
Non, pour le voyage, pour le voyage. Pour la planète aussi, mais pour le voyage, qu'on ne puisse plus aller à l'autre bout du monde comme ça en 12, en 24 heures. Et que d'aller prendre en photo les gauchos en Argentine, ce soit vraiment une vraie expédition, que tu sois obligé d'y aller en bateau ou en train, on ne sait jamais, mais pour l'instant en bateau. Que le voyage reprenne sa dimension vraiment d'exploration et de vraie aventure, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de partir loin en un claquement de doigts. Et moi je voyage pas mal en France, mais je continue à voyager à l'étranger, un peu loin. Cette année, il y a quelques mois, j'ai fait une aventure dont je rêvais depuis longtemps. J'ai traversé l'Atlantique à la voile.
Ok, combien de temps ça prend ça?
Ça a pris 16 jours. 16 jours à la voile, sans moteur.
Ok.
Et c'était une très belle aventure.
Tu es revenu à la voile aussi?
Non, je suis revenu en avion. Je suis revenu en avion, donc je pense que le bilan carbone de l'expérience n'est pas forcément plus positif qu'un aller-retour en avion. Mais c'était une manière de voyager qui était vraiment complètement différente du fait de prendre l'avion, ce que je fais d'habitude pour partir loin. Dans la mesure du possible, j'essaie au maximum de prendre le train et de ne pas prendre l'avion, mais j'ai quand même un métier qui me fait beaucoup voyager.
C'est ça qu'il faut préciser, c'est que le slow travel, comme on dit en bon français, revient à la mode avec cet espoir de diminuer le bilan carbone en prenant le train, en prenant le vélo. Mais quand tu es photographe et que tu dois bosser ou exécuter une commande, il y a quand même la notion de temps. Donc, tu ne vas pas forcément avoir ce luxe du temps qui te permettra d'emprunter des moyens... de transport plus vertueux, en fait.
Voilà, c'est ça. Après, tu peux aussi te dire, bon, si je prends l'avion pour traverser l'Atlantique, à ce moment-là, je ne vais pas partir 10 jours, je ne vais pas partir 2 semaines, je vais partir 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je vais faire plusieurs projets, je vais vraiment rentabiliser, si tu veux, l'impact de ce voyage-là pour ne pas avoir à faire ce trajet plusieurs fois dans l'année, mais ne le faire qu'une seule fois et de revenir avec la matière qui me suffira pour plusieurs années.
Mais c'est possible, ça?
Ça dépend de ta vie de famille.
Parce que tu vois, oui, c'est un choix. Après, si tu entames une vie de famille et que tu pars sur ces modèles de reportage des années 80, peut-être un Olivier Folmy pourrait nous en parler tout en longueur, les temps ont un peu changé quand même là-dessus.
C'est ça. Après, c'était une époque aussi où les photographes voyageaient beaucoup avec leur famille, ce qui n'a pas tout à fait disparu. Donc, ça peut être... Après, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie.
Tu t'achètes un voilier et tu mets ta famille sur le voilier.
Il y a ça. Bah après, un voilier, c'est un petit investissement. C'est beaucoup de frais aussi. Donc, c'est pas forcément ma priorité actuellement.
Prends un bateau à moteur, ça va plus vite.
Oui, voilà. Au moins, le problème est résolu.
Non, mais on parlait un peu de l'empreinte carbone sur le côté un peu commandité, sur des campagnes de communication, de machin, de trucs. Je sais que dans le cinéma, y a un vrai mouvement qui est un peu en train de se mettre en place avec des productions éco-responsables qui ont un label. Alors, je ne sais pas si toute cette philosophie a commencé un peu à ruisseler sur les productions de campagnes d'images photographiques. Mais il y a des chances, si ce n'est pas encore arrivé, que ça finisse par arriver où des grandes agences de communication ou des marques certifieront en plus leur campagne de communication. Bon, je ne vais pas dire les grands mots, mais les plus éco-responsables possibles, en tout cas, quoi.
Voilà, c'est quelque chose qui peut être proposé aux clients, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de greenwashing aussi, ce qui est un excellent fonds de commerce. Et parfois, j'ai du mal à croire à la sincérité de certaines actions. Mais en fait, la meilleure énergie, l'énergie la plus verte, c'est celle que tu ne consommeras pas. Donc au final, au niveau de la production, oui, plutôt que de partir 2 jours en Thaïlande pour shooter une campagne, il vaut mieux la faire en studio, localement à Paris. Il faut limiter les transports, je pense, dans ces productions-là. Et après, il y a une tendance quand même globale de fond qui vise à ralentir un peu tout ce qui est superflu.
Bon. Merci, Benjamin, pour cette story cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer, même de continuer notre discussion avec notre invité, le photographe Brice Portolano sur les photographes voyageurs.
MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur mpb.com. Jetez-y un œil.
Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Brice Portolano pour cette grande émission dédié aux photographes voyageurs. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire et que l'on remonte au 19e siècle, finalement assez peu de temps après l'invention même de la photographie. À cette époque, des voyageurs, ou plutôt même des explorateurs, se sont emparés de cette nouvelle technologie pour documenter leurs expéditions. On vous propose d'écouter un extrait d'une interview d'Olivier Loiseau, qui est chef de service acquisition et collection géographique à la BNF et co-auteur de l'ouvrage intitulé « Les premiers voyageurs photographes » édité chez Glénat. Cette interview a été réalisée par TV5 Monde à l'occasion du lancement de cet ouvrage.
Certains, avant de partir, sont déjà des photographes professionnels. D'autres, effectivement, sont des amateurs et, pour la première fois, utilisent la photographie, particulièrement dans les années 1875, 80, 90. Ces voyageurs partaient le plus souvent avec des instructions. Ils partaient parrainés par une institution, que ce soit le ministère de l'Instruction publique, le ministère des colonies ou encore les sociétés de géographie. Chaque voyageur, chaque explorateur partait souvent, même parfois, avec une liste de questions qui lui étaient posées, des questions auxquelles il avait apporté des réponses. Et donc la photographie participait aussi aux résultats que l'on rapportait du voyage. Je crois que ce qui est fascinant, c'est aussi le regard que ces photographes portent sur des territoires ou des peuples qu'ils voient pour la première fois. Donc quelles sont ces premières images? Comment se passe la rencontre avec l'autre? Voilà, ces premières images que l'on ramène de l'ailleurs et comment on les perçoit.
Alors Brice, est-ce que tu te sens l'âme d'un explorateur du 19e siècle lorsque tu pars en voyage et que tu photographies des lieux et des habitants dans des zones reculées sur la planète ?
Pas du tout. Non, pas du tout. J'aimerais bien. Parfois, j'ai l'impression de remonter le temps un petit peu quand même. J'ai l'impression d'assister à des scènes intemporel, c'est ce que je cherche aussi. C'est pour ça aussi que je vais dans des coins reculés, dans des coins un peu isolés, à l'écart de la modernité des grandes villes. C'est pour ça que j'ai un grand amour pour les grands espaces, pour la Patagonie, pour l'Alaska, pour la Mongolie, pour la Sibérie orientale, pour ces endroits où la modernité, ce qu'on appelle le progrès, parfois aussi n'a pas encore tout effacé des anciennes traditions et du passé, où on a toujours une manière de vivre, de penser, de fonctionner qui est très liée à la nature, aux saisons, aux animaux. C'est quelque chose qui me plaît. Et non, je pense que tout a été exploré.
Non, en tout cas sur Terre, pas forcément sous l'eau. C'est là qu'il y a encore une dimension d'exploration. Mais cette distinction, elle est importante quand on parle de photographie de voyage au XXe siècle, où il y avait une notion d'exploration qui était très, très présente.
C'est vrai.
Avec des gens même comme Nicolas Bouvier aussi, qui était un grand, grand écrivain et photographe. Mm-hmm. On sait moins voyageur. Et c'est des gens qui nous ont ouvert tout simplement le monde, en fait, quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, qui es l'incarnation un peu d'une nouvelle génération de photographes voyageurs, vous êtes plus des témoins. Mais quelque part, c'est positif aussi, hein, puisque comme tu le disais même au début d'émission, c'est un prétexte pour aller voyager, mais tu ramènes des images et tu peux témoigner.
Voilà, et puis tu témoignes de ton expérience, de l'expérience que tu as vécue. C'est aussi... personnel, j'ai l'impression que parmi les travaux des photographes aujourd'hui, il y a de plus en plus de témoignages personnels, il y a de plus en plus d'écritures d'auteurs, plus qu'avant. La photo de voyage a beaucoup changé, elle est mêlée à la photo documentaire aussi souvent.
C'est une approche différente aussi, comme tout a déjà été photographié. On peut photographier la même chose que les autres, mais avec son regard à soi, et là, ça devient vraiment unique.
Est-ce qu'il y a des photographes voyageurs qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours ?
Ah, les couleurs de McCurie me plaisaient beaucoup avant, mais c'est vrai que plus que la photo, c'est avant tout le cinéma qui m'inspire, la peinture aussi, la musique aussi, la lecture, tout en fait. Même l'actualité peut être très inspirante pour regarder un pays, une région, pour vivre un voyage à travers un prisme particulier. Je trouve l'inspiration partout, en fait. J'ai pas vraiment de maître à penser en photographie. J'ai pas d'idole chez les grands photographes.
En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette émission, et je trouve assez fascinant, finalement, de voir que l'invention de la photographie est directement liée à l'apparition, ça paraît évident comme ça, de la photographie de voyage. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure, c'était extrêmement dur de voyager. Évidemment, les procédés photographiques à la fin du 19e siècle, ce n'était pas un Canon EOS R5. Hein. C'était lourd, c'était encombrant, c'était long, c'était totalement aléatoire. C'était de la photographie expérimentale. Et tout ça a suivi, finalement, avec les grandes révolutions industrielles du 20e siècle. De la photographie, mais pas que. Alors, on a eu l'apparition du 35 mm, évidemment, de la photographie couleur, la démocratisation de la pellicule, et puis aussi toutes les révolutions dans le domaine du transport qui ont permis d'ouvrir la porte, finalement, au voyage au plus grand nombre et mécaniquement à la photographie de voyage. Ce qui est assez intéressant, finalement, avec cette photographie, Brice, si tu m'arrêtes, si je me trompe, c'est que finalement, elle couvre différentes techniques et approches photographiques différentes. C'est-à-dire que dans tes voyages, dans tes sujets, dans tes reportages, tu fais autant du paysage que du portrait ou que même, du coup, du reportage. Il faut vraiment maîtriser toutes ces disciplines photographiques.
Non, il n'y a rien à maîtriser. Tu maîtrises ce qui te plaît, en fait. Si tu veux faire du portrait, tu fais du portrait. Si tu fais du paysage, tu fais du paysage. Moi, j'ai eu différentes phases. J'ai démarré la photo vraiment avec le portrait. Ensuite, j'ai fait beaucoup de photos documentaires et de paysages. Et là, je reviens vraiment vers le portrait parce que le rapport avec la personne que tu vas faire poser n'a rien à voir quand vraiment tu la diriges et tu la fais poser en comparaison de simplement faire du reportage où tu vas essayer d'être une mouche sur un mur et d'être le plus discret possible pour te faire oublier et réussir à capter des moments spontanés. C'est une manière de travailler très différente. C'est des manières qui se complètent, en fait, des manières de shooter qui se complètent. Mais c'est vrai que maintenant, j'entre dans une ère où je prends beaucoup de plaisir à diriger les gens et à les faire poser, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je me sentais moins légitime à le faire et j'étais moins à l'aise et j'avais plus de facilité à réussir à capturer des moments spontanés. Et c'est vraiment deux manières de travailler qui sont très différentes.
Et ça veut dire que tu vas anticiper ça avant de partir ? Ou sur place, est-ce que tu n'as pas du coup des difficultés parfois à faire poser certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise face à l'objectif ?
Non, j'ai l'habitude de faire poser des gens qui ne sont pas à l'aise devant les objectifs. Et en fait, tu vas créer un lien avec eux. Et puis surtout, à partir du moment où tu montres à la personne que tu sais où tu l'emmènes, elle te fait confiance, que ce soit un gamin ou une personne de 60 ans. Peu importe son statut social, peu importe son âge, peu importe son sexe, la personne va réussir à te faire confiance si tu lui montres que tu sais où tu l'emmènes.
Pour ça, il y avait souvent du temps. Hein. Olivier Folmy, notamment dans son livre Conseil d'un photographe voyageur, il expliquait que quand il arrivait dans un village, une contrée reculée, il prenait beaucoup de temps. Le temps de se poser, il laissait les appareils de côté pour ensuite avoir finalement pu gagner leur confiance et se mettre à photographier. Mais toi, par rapport à ces contraintes de temps, tu y arrives quand même.
Moi, c'est ce que je fais aussi. C'est ce que je faisais avant. Je mettais l'appareil photo de côté et je devenais familier. J'essayais de devenir un ami, de participer aux différentes tâches, d'aller couper du bois, de participer à la vie quotidienne avant de sortir l'appareil photo. Ne serait-ce que par respect, par considération envers eux, pour nouer un lien humain avant de les photographier. Mais il y a parfois, c'est aussi deux manières différentes de travailler. Il y a parfois des images, des rapports que tu peux avoir avec les gens qui ne seront pas les mêmes quand tu ne les connais pas. Et également, tu vas tu vas entamer une conversation, nouer un lien avec eux, créer un lien, gagner leur confiance, mais sortir l'appareil photo assez rapidement pour qu'ils comprennent tes intentions aussi. Et s'ils ne veulent pas être pris en photo, tu ne les prends pas en photo. Après, Olivier Folmy, peut-être entrer en contact de gens qui ont une culture très différente de la sienne. Pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas... photographe qui va prendre en photo des gens qui n'ont jamais vu d'appareil photo de leur vie.
Faisait partie un peu de ces explorateurs. Hein,
voilà.
On parlait au début. Ces photographes du XXe siècle qui découvraient vraiment des contrées. Quoi.
Ouais, moi je prends. Enfin, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, même les gens, même les Maasai, même les Tsatan, même les Gauchos, tout le monde a un smartphone. Donc, le rapport à l'image a énormément évolué ces dernières années. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé via les réseaux sociaux, via Internet. Et maintenant, tous les appareils photo, enfin tous les téléphones portables prennent des photos. Donc, c'est pas le même monde.
Qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message ou comme émotion dans tes photographies de voyage? Qu'est-ce que tu racontes avec tout ça?
Alors, je cherche pas forcément à faire passer de messages ou d'émotions. La photo, je m'étais posé cette question au tout début de ma carrière professionnelle, et en fait, je me disais que les photos, je les faisais avant tout pour moi. La personne à qui il faut que ça plaise, c'est avant tout moi-même. C'était vraiment une motivation personnelle. Et ce que j'aime faire, c'est créer des ambiances, en fait, créer des univers un petit peu. Emmener la personne qui va voir ma photo dans un univers différent, dans mon monde, en fait. Il n'y a pas particulièrement de message, pas particulièrement de...
Tu t'intéresses quand même, comme tu le dis, à la relation entre l'homme et la nature.
Bien sûr. C'est la relation entre l'homme et la nature qui m'inspire avant tout. Mais si tu veux, il n'y a pas de... J'ai fait un projet qui s'appelle No Signal, et pendant 5 ans, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont changé de vie pour se rapprocher de la nature. C'est des gens qui ont vécu des changements radicaux dans leur quotidien et qui ont connu le confort de la modernité, de l'accès à Internet, à l'eau courante, à l'électricité, au chauffage, etc. Et qui ont décidé de s'extraire d'une vie qu'ils estimaient trop facile et trop déconnectée de la nature pour vivre un mode de vie beaucoup plus rude en général et beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche des éléments naturels, des animaux, de la nature sauvage. Du cycle des saisons et en fait à travers ce travail là par exemple c'est pas une leçon que je donne aux gens qui vivent en ville, c'est simplement l'idée c'est de montrer à tout le monde que voilà, il y a des gens qui vivaient comme nous, parce que moi je bénéficie aussi du confort moderne, il y a des gens qui vivaient un mode de vie moderne et qui ont décidé de vivre différemment, et en fait c'est juste comme ça, c'est faites-en ce que vous voulez, voyez-le en trouvant ça joli ou soyez bouleversé par ça et décidez d'en faire autant, mais libre à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est simplement, j'ai envie de témoigner en tout cas de ces chemins de vie-là, mais il n'y a pas forcément... comme je travaille sur la relation entre l'homme et la nature, parfois les gens me prennent pour un grand écolo avec de grands principes, mais en fait je suis au milieu de...
Tout
cette
monde
planète
traverse
comme vous.
Pas l'Atlantique à la voile, donc...
C'est sûr, mais je la traverse aussi parfois. Non, je la traverse... je suis revenu en avion, donc tu vois, c'est très relatif. J'estime que j'ai de leçons à donner à personne. Simplement, je prends beaucoup de plaisir à montrer aux gens à quel point la nature peut être belle et à quel point la relation avec la nature peut être enrichissante et tellement... et peut vraiment te combler beaucoup plus que toute autre chose, que toute autre possession matérielle, de partir camper une semaine dans la nature norvégienne ou la nature française, ça peut être un bouleversement.
J'allais te dire, à Villeau-Parisien, de très très belles forêts en Île-de-France, et prendre une toile de tente pour un ou deux jours, ça fait du bien.
Exactement, et c'est ça aussi avec ce que j'essaie de démarrer comme étincelle chez les gens avec ce travail-là. je me contredis un peu, mine de rien, mais en fait, ce qui me plaît avec ce travail-là, c'est de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour vivre une grande aventure, que c'est quelque chose qui peut être vécu à proximité de chez soi.
On parle beaucoup de micro-aventure aussi en ce moment.
C'est vrai,
c'est un terme qui est assez à la mode.
C'est vrai.
Qui dit bien ce que ça veut dire.
Absolument, absolument. Et une micro-aventure peut être tout aussi bouleversante qu'une très grande aventure. Donc, sortez, allez randonner, allez camper, allez voir les animaux, pêcher, nager dans la mer.
Tu veux dire déconfinez-vous ?
Oui, exactement.
Alors, bien entendu, aujourd'hui, vis-à-vis de la photographie de voyage, la donne a naturellement changé. Au-delà des importantes révolutions du XXe siècle qu'on a évoquées, la photographie de voyage et le rapport à l'image, aussi bien d'un point de vue des producteurs que des observateurs, a totalement évolué en ce début du XXIe siècle. Internet et la photographie numérique ont fait leur apparition, puis, tu l'as évoqué, les smartphones et enfin les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ou presque a déjà été exploré, documenté, photographié et filmé sur la planète, et il est donc de plus en plus difficile de trouver un sujet original, jamais vu. On écoute le photographe voyageur Johan Lolos nous parler de sa motivation à faire de la photographie de voyage en 2024.
Je ne me définis pas du tout comme un explorateur. Je ne suis pas là pour découvrir des nouveaux mondes ou des nouvelles contrées et documenter ça comme si c'était une terre inconnue que je partageais au reste du monde. Je me définis avant tout comme voyageur, et moi en tant que voyageur je suis à mille lieues d'avoir encore découvert l'entièreté du monde. J'ai vraiment cette envie de pouvoir découvrir, témoigner, partager, mais vraiment expérimenter un maximum de choses à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment mon envie de voyageur. Et puis par conséquent, j'en prends des photos parce que c'est devenu mon métier depuis 10 ans, mais je pense vraiment que la majorité des gens qui ne sont pas voyageurs à plein temps ou photographes à plein temps ne sont pas spécialement conscients de tout ce qui a déjà été découvert, de tout ce qui existe à travers le monde, et même si effectivement tout a déjà été photographié, et il n'y a plus vraiment d'unicité ou de surprise à venir avec un angle nouveau. Est-ce qu'il existe encore un angle nouveau en photographie de voyage? Certainement, mais je pense que c'est de plus en plus difficile à amener. La réalité, c'est que d'un point de vue spectateur lambda, il y a toujours moyen de l'émerveiller et de lui faire découvrir des nouvelles choses. Et moi, le premier, c'est-à-dire qu'ici, depuis le Chili en Patagonie, mais il y a une semaine, j'étais en Argentine, toujours en Patagonie, et j'ai été visiter le glacier Perito Moreno, qui est le glacier certainement le plus connu de Patagonie, que j'ai vu déjà des dizaines de milliers de fois en photo. Et malgré ça, une fois que j'étais devant ce glacier, j'étais mais bouche bée. Je n'en revenais pas de l'immensité de ce glacier, de la beauté du truc. Et c'est pour ça que je voyage. C'est pour ce genre de moment que je continue à voyager, même si je savais déjà plus ou moins à quoi attendre. Je connaissais les couleurs du glacier, je connaissais l'angle du glacier, je connaissais déjà tous ces aspects un peu plus techniques grâce aux images que j'ai déjà pu voir à travers les réseaux sociaux et dans les magazines, mais rien de tout ça ne valait vraiment ce que j'ai pu expérimenter ce jour-là.
Bon, merci Johan, évidemment, pour son témoignage. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que votre discours se rapproche sur certains points, certains aspects. Est-ce que toi aussi, tu rencontres des difficultés à essayer de trouver des angles originaux dans tes reportages, dans tes sujets en voyage?
Alors, c'est vrai que la presse demande souvent des propositions anglaises, c'est-à-dire avec un angle, quelque chose qui n'a jamais été traité, un angle nouveau. Mais après, dans mes projets personnels, pas forcément. En fait, c'est quelque chose qui va mûrir longtemps. Et le voyage peut n'être qu'une composante du projet, mais pour moi, ce qui va me permettre de créer quelque chose d'intéressant, de créer des photos, un corpus de photos intéressants, ça va être la dimension personnelle derrière, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment, même si tout a déjà été photographié, c'est à travers ton expérience personnelle et ton bagage personnel que ça va se différencier. Mais ça, il faut l'inclure dans le projet. Il faut que ce soit une manière de voir les choses personnelles Mais en fait, moi, je ne me définis pas vraiment comme photographe de voyage. Je fais du voyage.
Tu es d'abord voyageur avant d'être photographe, tu veux dire ou...
Oui, en fait, la photo est venue naturellement au cours de voyage. C'est comme ça que j'ai découvert la photo. C'est quand j'étais gamin, en voyageant avec mes parents, bon, pas à l'autre bout du monde, mais en voyageant, dès qu'on partait quelque part avec mes parents, j'avais envie de prendre des photos pour me souvenir de ce que j'avais vu. Et c'est comme ça qu'est née cette passion et que c'est ensuite devenu un métier. Il y a toute la partie créative derrière qui m'a énormément nourri. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai plus de facilité à créer quelque chose que je trouverais intéressant ailleurs que chez moi. Parce que c'est la nouveauté, c'est la différence, c'est le contraste avec mon quotidien qui vont me stimuler et qui vont titiller ma créativité. Mais
est-ce qu'il n'est pas plus facile finalement de faire des photos de voyage que chez soi? Parce que comme tu dis, on se confronte aussi à d'autres décors, d'autres visages, et ça peut inspirer quoi.
Bien sûr, après il y a tout un inconfort qui vient avec le voyage qui peut décontenancer beaucoup de monde, tu vois. Je connais des gens, ils n'ont jamais bougé de chez eux, ils n'ont pas envie de voyager. Et c'est une... En fait, on prend goût vraiment au voyage indépendamment de la photo. C'est le fait de se retrouver dans un pays où on ne parle pas ta langue, où les odeurs ne sont pas les mêmes, les gens ne sont pas les mêmes, les lumières, les paysages, les saisons, le climat, tout est différent. Et en fait, c'est de ce contraste-là avec mon quotidien que va naître la bonne image. Pour moi, c'est vraiment un moteur, le voyage, mais c'est pas forcément mon sujet principal. Mon sujet principal, ça va être avant tout le lien entre l'homme et la nature ailleurs que chez moi. J'aimerais réussir à le documenter chez moi, mais j'ai du mal à faire des photos qui réussissent à me satisfaire. C'est un travail que je trouve moins puissant en général.
Alors, il y a aussi une autre type de photographie qui est extrêmement à la mode, extrêmement omniprésente partout en ce moment. C'est ce qu'on appelle la photographie lifestyle, qui se rapproche le plus souvent d'un travail de commande et de communication pour promouvoir soit des lieux, des produits, des services, peu importe. Et cette photographie-là, qui est omniprésente sur les réseaux sociaux, par exemple, elle vient vachement puiser des codes de l'image qu'on pourrait se faire de la photographie de voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, cette photographie lifestyle vient puiser son inspiration de là et pourquoi, surtout, elle est si populaire et si efficace, finalement, en termes de communication?
Alors, il faut qu'on réussisse à définir la photographie lifestyle, et parce que pour moi c'est un terme qui est très vaporeux. Donc, je ne serais pas le meilleur...
péjoratif
Non, pas péjoratif, non. Mais très vague, en fait. Avant, la photo lifestyle, c'était de la photo qui impliquait... qui montrait un style de vie, qui montrait une manière de vivre de manière...
Une manière cool de vivre, peut-être.
Voilà,
légère.
Aujourd'hui, je sais pas, mais il y a un style de photographie qui a émergé avec les réseaux sociaux, qui est une photographie assez contrastée, assez colorée, et qui va faire rêver aussi chez les influenceurs de photos de voyage. Il y a souvent une même recette qui est appliquée et qui a fait ses preuves, et les gens vont continuer à liker ça même s'ils ont vu la photo 100 fois avant, parce que en fait c'est un peu une image d'épinal, c'est quelque chose qui va faire rêver encore et encore et qui va reprendre des codes assez classiques, en fait.
Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que alors effectivement on a ce qu'on va appeler des influenceurs qui font rêver les gens avec des images un peu extraordinaires, mais ça va au-delà de ça, dans le sens où on a beaucoup aussi de ce qu'on va appeler des badauds, donc des amateurs, des touristes, qui vont venir s'emparer des codes de ces photographies de voyage totalement surréalistes et vont faire la démarche d'aller à un endroit spécifique pour venir réaliser la même photo qu'ils ont vue 350 fois, produite soit par d'autres badauds, soit par des photographes influenceurs. Et il y a toute une mise en scène autour de ces spots. Je sais que sur Insta, des fois, Moi, quand je scroll, j'ai souvent le truc Insta versus real life.
Ouais, qui se, influencers in the wild.
Mais c'est complètement dingo, quoi.
Ouais, mais en fait c'est, t'as différents types de photographes. Et t'as des photographes qui aiment aussi, ou des gens qui simplement voyagent et qui vont voir ces lieux-là comme on collectionne des cartes, comme on collectionne des timbres. Et c'est une manière d'expérimenter aussi de vivre le voyage ou la photographie qui est différente de la mienne, mais je blâme pas forcément ces gens-là. Alors, ça peut donner lieu à des situations assez cocasses. J'ai déjà croisé en Norvège des influenceuses sur des chemins de randonnée qui savaient pas à quoi s'attendre. Voilà, il y a des situations rigolotes parfois comme ça, mais si ça permet à des influenceuses très urbaines de faire leur première randonnée, bah c'est génial finalement. Parfois, il y a des petits accidents, il y a tous les ans, il y a des morts par selfie. Quelques dizaines un ça peu partout dans le monde.
Ça s'est pas arrêté un peu quand même, les fameuses perches à selfie là au bord d'un précipice.
C'est vrai qu'il y a toujours quelques décès chaque année. Mais bon, si ça permet aux gens d'aller dans les grands espaces, d'aller expérimenter ces lieux-là, pourquoi pas. Après, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, partout dans le monde, t'as vraiment une influence maintenant sur le terrain. T'as une influence géologique de ces foules sur le terrain et t'as des aménagements qui sont obligés d'être faits pour accueillir ces dizaines de milliards de pas sur des sentiers qui d'habitude ne voient que quelques personnes par an. Donc, c'est l'impact du tourisme de masse qui, dans le cadre de la photo trophée, entre guillemets, vient amener beaucoup, beaucoup de monde sur un seul mètre carré, donc pour avoir exactement le même angle, etc. Donc après, c'est l'une des dérives du tourisme, mais je pense que c'est une autre manière de vivre la photo et le voyage. Mais pour moi, les photographes ne font pas du tout la même chose que ça. C'est une différence entre... Après, la photo a toujours fait partie du tourisme, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré la photo. C'est par le tourisme, c'est par le voyage. Donc si ça leur permet peut-être un jour de devenir photographe plus créatif que de simplement reproduire des images qu'ils ont vues ailleurs, ça peut être un très bon point de départ aussi.
Comment tu gères, toi, les réseaux sociaux pendant que tu voyages? Est-ce que tu diffuses des stories ou est-ce que tu finalement prends du temps pour toi et tu te dis les images, je les montrerai après ou à travers les sujets que je vais publier, diffuser?
Ça dépend. Je fais les deux. Parfois, je fais des voyages durant lesquels je n'ai pas du tout de réseau. Donc, dans ce cas, la question ne se pose pas et j'en parle après. Parfois, il y a même des voyages que je ne partage pas du tout, soit parce que c'est une commande, soit parce que c'est des vacances. Tu vois, il y a des vacances, ma vie privée reste privée. Et c'est bien comme ça. Mais souvent, je partage des stories un peu en décalé, parfois le temps de les digérer, d'avoir le temps de les préparer, de les poster. Mais j'aime bien aussi montrer un petit peu l'envers du décor. Parfois, ça permet de montrer des images qui resteront pas dans la sélection finale ou qui ont simplement été prises au téléphone portable. Mais pour moi, ça fait partie de l'aventure aussi, de montrer ça, de le partager. Et puis ça permet de garder le lien avec les amis qui, eux, sont restés à Paris ou dans leur bureau ou qui n'ont pas cette chance de voyager là. Ça leur permet aussi de voir ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est quelque chose d'assez plaisant. Et puis, d'un point de vue communication aussi, c'est un outil assez puissant parce que quand les gens qui me suivent ou les clients ou autres voient qu'il se passe des choses, ça les intéresse, ça les intrigue. Et en général, ils t'appellent aussi derrière pour te faire bosser parce que tu les as fait rêver avec un beau voyage. Et ça marche comme ça aujourd'hui.
On en revient à l'influence.
Ouais, mais les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable aujourd'hui pour les photographes, clairement.
Tout est dans le dosage après, mais c'est vrai qu'il y a peut-être là une différence quand même hein, entre les influenceurs et le photographe de voyage, c'est dans le dosage de l'utilisation des réseaux sociaux.
Voilà, moi j'ai pas de scrupules si jamais vis-à-vis de l'algorithme, etc., est-ce qu'il va m'aimer, est-ce qu'il va pas m'aimer, moi si je publie pas pendant 2 mois, je m'en fous en fait, c'est juste que j'ai pas de choses à publier, ou peut-être que j'en ai mais je suis occupé, et du coup ça va pas être ma priorité. Après, il faut pas s'extraire complètement des réseaux sociaux aujourd'hui, parce que c'est indispensable, mais il faut pas en être l'esclave non plus, ce qui n'est pas facile à faire. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire.
De pas être esclave de son téléphone pour commencer, donc voilà. C'est plus que compliqué.
Voilà.
Selon toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un photographe voyageur?
Je pense que c'est bien d'avoir des défauts aussi.
Bah vas-y, fais les deux.
Un défaut, alors, photographe voyageur, bon, c'est bien de parler anglais, déjà. C'est un bon outil, parce que le français n'est pas forcément très répandu. En tout cas, ça dépend des pays où on va.
Oui, Google Trad, hein, désormais. Bon.
Oui, mais bon, si t'as pas de réseau, bon, tu fais ça.
Non, on a lâché le smartphone, on a dit.
Voilà, voilà, on a posé le téléphone, on n'a plus de batterie, on n'a plus de réseau. On est libéré. Les qualités, je pense que c'est de réussir à faire beaucoup avec peu de matériel. C'est d'être assez flexible sur le confort. En tout cas, pour la photo de voyage, pour les photographes de voyage, je pense que c'est bien de ne pas avoir de trop grandes exigences de confort, de parler un peu anglais, de réussir à se débrouiller, d'être assez flexible, de réussir à faire beaucoup avec peu, en fait, à la fois en termes de matériel, d'argent, de temps, parfois.
Un bon système digestif, peut-être.
Oui, ça aide aussi, ça aide. Mais de savoir démarrer un feu, de savoir être un minimum débrouillard, mais surtout, c'est, je pense, le rapport aux autres, d'avoir une certaine ouverture, d'avoir une certaine curiosité aussi. Je pense qu'il faut être curieux. Et en photo, pas qu'en photo de voyage, mais en photo en général, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que ça reste un métier de passion. Et le jour où t'as plus de passion, ça se voit et ça se ressent et t'es plus heureux. Donc il faut réussir à être guidé, motivé par des choses qui ont vraiment du sens pour toi. Au-delà des projets commerciaux, des commandes, etc., c'est bien d'avoir des projets personnels qui ont vraiment un sens, qui réussissent à te nourrir, en fait.
Bien, la transition est toute trouvée, hein, puisque comme pour beaucoup de secteurs de la photographie, c'est pas évident, hein, de vivre de la photographie de voyage. Alors c'est paradoxal parce qu'il n'y a jamais eu autant de médias de diffusion et pourtant cette photographie peine à trouver ou plutôt même à maintenir son modèle économique. On écoute Valerio Vincenzo, le chef du service photo du magazine Géofrance, l'un des rares magazines à encore publier des reportages de voyage, nous parler des différents types de sujets qu'il peut être amené à publier et donc à commander.
Quand on parle de voyage et de photographie des voyages, il faut vraiment distinguer les projets qui sont des projets des photographes et les intentions du photographe. Et les projets pour lesquels qui ont un sens et qui peuvent être publiés dans un magazine comme Géo. Cela veut dire que c'est pas parce qu'un sujet en voyage n'est pas publié dans Géo que c'est pas un bon sujet et que c'est pas un bon projet. Mais quand on veut les proposer aux lecteurs de Géo, il faut qu'il y ait des caractéristiques, des éléments qui les rendent intéressantes pour la rédaction. Donc une première rubrique, une première caractéristique, ça serait, nous on a ça, on a l'esprit d'aventure, la rubrique esprit d'aventure. Il faut que un sujet de voyage peut rentrer dans cette catégorie quand il a certaines caractéristiques, par exemple un itinéraire qui n'est pas simple, qui n'est pas à la portée de tout le monde, ou bien dans lesquels on suit par exemple des chercheurs pour découvrir soit des espèces méconnues, soit des lieux de difficile accès. C'est des sujets que on improvise rarement. Souvent, il y a beaucoup de préparation en amont. Après, il y a des sujets de voyage qui sont pas liés à une aventure, mais qui sont liés plutôt à la découverte d'un peuple ou d'un territoire, ou une façon de rentrer dans un sujet en particulier. Par exemple, on est en train de monter un sujet en Inde dans lequel on va suivre le parcours des urnes dans lesquelles pour les élections en Inde, parce que les autorités ont décidé que tout électeur ne doit pas être plus loin que 2 kilomètres de l'endroit où il va voter. Et donc, il y a des expéditions qui sont organisées un peu partout en Inde pour amener les bulletins de vote et les urnes dans des lieux très reculés. Donc ça, c'est un voyage qui est lié à une histoire. C'est une façon de rentrer dans un sujet. Après, il y a des sujets un peu plus tourisme. Ça, souvent, ça peut aller pas dans les mensuels, mais dans leurs séries qu'on organise dans plusieurs thèmes, dans lesquels on découvre un lieu, soit en faisant des déplacements en bateau, soit en train, souvent en train, on aime beaucoup les déplacements en train, soit à pied, par exemple, ou ça peut être des pèlerinages, des choses comme ça. Mais c'est plus difficile, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'autre. Il ne faut pas que ce soit des voyages juste pour les voyages. Il faut que ce soit un voyage, mais avec un but, que ce soit la découverte de traditions locales ou bien... il faut que le voyage ait une signification particulière. Sinon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon projet photo, mais ce n'est pas un projet photo qu'un magazine comme Géo a intérêt à publier.
Bon, bah maintenant, vous savez quoi faire si vous voulez peut-être être publié dans Géo. Brice, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne, toi, professionnellement ? Quelles sont tes différentes sources de revenus? Évidemment, tout ça autour du voyage, comment ça s'articule, quoi?
Alors, moi, je vis à la fois de la presse, de l'édition et de la publicité. En termes de répartition, je pense que la presse doit faire 20%, l'édition 20% et la publicité 60% en termes de répartition des revenus. C'est vrai que les budgets de la presse baissent avec le temps.
Ouais.
L'édition aussi, et la publicité, c'est variable selon les clients. Mais ça dépend des années, en fait. Il y a des années où il y a des droits pour un livre qui vont tomber, qui vont être plus importants. Il y a des années où je vais beaucoup bosser en presse, d'autres années où beaucoup moins. Ça va être assez variable.
Et concernant la presse, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui vas pitcher les sujets ou parfois on vient te chercher et on t'en propose parce qu'on sait que tu vas avoir les prédispositions, parce que tu connais tel ou tel endroit?
Les deux. Souvent, on m'appelle. Parfois, je pitch. Et parfois, ça prend. Parfois, ça prend pas. Mais souvent, on m'appelle pour justement pour les voyages. Donc, c'est chouette parce qu'on m'envoie...
Ouais, t'es identifié, quoi.
Ouais, je suis identifié comme photographe voyageur, baroudeur. Donc, en général, quand il faut aller faire du cheval quelque part, descendre une rivière en canoë ou faire du bateau, on pense à moi, donc ça c'est génial. On m'envoie faire des reportages comme ça, à la fois de voyage ou d'aventure, et c'est vrai que c'est génial quand on pense à toi pour ça, parce que t'as quelques, entre guillemets, en prépa, peu de choses à faire, t'as pas à trouver le sujet, à le pitcher, à le développer, etc. T'as simplement à faire ton sac et charger tes batteries et partir. Ensuite, tout en préparant bien ton voyage, etc., évidemment. Mais si tu veux, il y a une partie du boulot qui est déjà faite et que tu n'as pas eu à faire. Et donc, c'est un gain de temps conséquent.
Et tu as un exemple de sujet que tu as traité pour Géo. C'est hyper intéressant, là, ce que disait Valerio sur cette histoire d'urne qui doit être à moins de 2 km des Vautendins. Quand tu connais la superficie ou tu devines la superficie du territoire, c'est absolument dingue.
Et la population.
Et la population. Donc toi, tu as un exemple comme ça de sujet que tu as réalisé avec un angle assez précis?
Assez pointu, non. Non, j'ai pas vraiment. Souvent en presse, ça a été du voyage, ça a été du portrait, mais jamais vraiment de reportage avec un angle aussi pointu. Là, c'est vraiment très spécifique. Mais en général, non, c'est plus du voyage.
Toi, c'est de l'aventure, quoi.
Ouais, c'est plus de l'aventure. L'aventure, la découverte des portraits de personnes qui vivent sur place dans le lieu visité. L'an dernier, par exemple, j'ai fait une série pour Le Monde de 6 portraits dans des archipels en Europe, des îles d'Europe. Ça peut être les îles éoliennes au large de la Sicile, Ali Koudi, en l'occurrence, les Açores... une île en Bretagne, une île au large de Marseille, en Allemagne aussi. Voilà, c'est des îles qui n'étaient pas très loin d'ailleurs. Mais à chaque fois, on s'est rendu sur place avec une journaliste et on a photographié un habitant qui était un petit peu emblématique de l'île ou de l'archipel et qui incarnait cette île. Et dans ce cas-là, ça va être un portrait. Mais l'angle derrière va changer en fait selon le portrait parce qu'il va y avoir des problématiques différentes. Ça peut être la montée de l'eau, ça peut être la chaleur, ça peut être l'isolement, tout un tas de choses. Mais voilà, c'est souvent axé quand même à ces voyages ou aventures.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton projet No Signal et que tu nous racontes un peu finalement comment il s'est réalisé, comment est née l'idée, comment s'est passée la phase de préparation, de casting, de repérage, j'imagine, combien de voyages tu as fait, comment tu as financé tout ça, enfin voilà, un peu les coulisses de ce projet.
Très bien. Alors, No Signal, c'est un projet que j'ai démarré en 2015. Et en fait, au cours de voyages, notamment aux États-Unis, j'ai rencontré Ben, qui est un producteur de radio et qui, accessoirement, produit la quasi-totalité de sa nourriture. Et j'étais très intrigué. Je me suis dit qu'il y avait d'autres gens comme lui qui pouvaient avoir un lien fort avec la nature. Lui, son lien, c'est qu'il va chasser sa nourriture. Il élève des poules et des canards dans son jardin. Il fait pousser ses légumes et dès qu'il ne travaille pas, il est dehors, en fait. Et je me suis mis en quête de gens, notamment aux États-Unis dans un premier temps, qui avaient un lien avec la nature très fort et qui le vivaient au quotidien. Et je suis tombé sur Jerry, un ancien agent immobilier du Michigan qui est devenu ostréiculteur en Alaska, qui a tout abandonné pendant la crise des subprimes et qui vit dans une maison qui flotte sur l'eau au milieu des archipels du sud-est de l'Alaska dans un endroit magnifique. Où on voit des baleines, des ours sortir des bois, des dauphins, des orques. On entend les loups hurler dans la forêt. C'est un endroit très préservé. Et après Jerry, j'ai rencontré Tinia, une jeune femme qui vit avec 85 chiens de traîneau au nord de la Laponie finlandaise. Je suis rencontré Elena, une ancienne journaliste qui s'est installée sur une petite île dans un phare au nord de la Norvège. J'ai rencontré Ali, ancien professeur d'art à l'université de Téhéran, qui est devenu double champion du monde de tir à l'arc à cheval. J'ai rencontré Sylvia en Grèce.
Tir à l'arc à cheval.
Oui, tout à fait.
Oh, c'est très précis, ça.
C'est très précis, c'est très précis, c'est très spectaculaire.
Vous imaginez,
ouais. En fait, il garde des chevaux dans une écurie où des riches propriétaires de Téhéran mettent leur pur sang arabe qu'ils ne savent pas monter parce que c'est un peu comme une voiture de sport.
Ouais.
C'est quand même... ça requiert un certain talent de monter un pur sang arabe. Et il s'en occupe et il les monte également. Et il profite de cette occasion-là pour s'entraîner au tir à l'arc à cheval. Et c'est un passionné d'histoire, de culture perse, c'est un perse très fier et du coup il vit cette passion pleinement au pied des monts Alborz à quelques heures de Téhéran.
Faut la bonne fenêtre hein, pour voyager en Iran parce que
oui elle s'est refermée malheureusement compliqué c'était en 2016 heureusement j'avais pas de drone, j'ai pas été emmerdé, tout s'est très bien passé et, c'est un voyage que j'ai adoré mais malheureusement c'est un peu compliqué pour y aller. C'est compliqué, la Russie aussi.
Bah oui, puisque toi qui aimes la Sibérie, c'est sûr que c'est un crève-cœur.
Après, j'ai découvert que les Mongols étaient plus rigolos que les Russes quand même, et quand même plus sympathiques. Parce que les Russes, souvent, ils viennent te serrer la main, ils sont très alcoolisés, et puis par fraternité, par virilité, ils souhaitent se battre avec toi, mais il n'y a pas de mauvais sentiments. Hein. C'est très bienveillant, mais ils veulent se battre avec toi pour rigoler. Quoi.
Donc
ils veulent
partager un verre.
Une bouteille ou deux. Mais bon, il y a des histoires à raconter en Mongolie, notamment avec ça, avec la vodka russe. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui.
Non, par contre, pourquoi No Signal ? C'est parce que c'est que des endroits où il n'y a pas de réseau.
Exactement. Exactement. Ouais, c'est un message qui s'affichait souvent sur mon téléphone. Et du coup, j'en ai déduit que c'était plutôt un bon titre pour déterminer ce projet parce que tous les gens, il y a une dizaine de personnes que j'ai rencontrées au total et tous ces gens vivent dans des endroits reculés, notamment Zaya, éleveuse de rennes en Mongolie, ou Sky qui est gaucho en Patagonie, voilà, qui élève du bétail dans un endroit très reculé dans les Andes aussi. Argentine et voilà, donc c'est un projet qui est né au fil des voyages, au fil des rencontres. C'est un projet qui était vraiment pensé pour terminer en livre. Voilà, je l'ai financé entièrement seul, sauf le voyage en Iran qui était une commande, mais sinon je l'ai financé uniquement avec mon argent personnel. J'ai eu un retour sur investissement via les ventes de livres, etc. Les ventes de droits.
Traduction coréen.
En coréen, tout à fait, incroyable. Tout à fait. Ça a beaucoup plu au coréen, visiblement. Et puis c'est les différents chapitres de ce livre ont été vendus à la presse aussi au fur et à mesure de la réalisation du projet. C'est comme ça que j'ai eu ma première apparition dans Géo en 2016 avec l'histoire de Tinia, la jeune femme qui vit avec ses chiens de traîneau au nord de la Finlande. Ça, c'est un sujet qui a beaucoup plu aussi aux Allemands. Géo Allemagne l'a publié plusieurs fois dans leur série, etc. ça a bien marché pendant quelques années pour ce sujet-là. Et voilà, le choix de le financer personnellement, c'était pour avoir une liberté totale. Et j'ai fait quelques demandes de bourse ou de concours ou autre. J'ai participé à quelques concours, mais je n'ai jamais rien gagné. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer à bosser en commande et le financer comme ça. Finalement, et c'est à travers la commande en publicité ou tout type de commande photo, que publicité, communication, que j'ai réussi à financer ces projets-là. Et c'est ce qui me fait vivre encore aujourd'hui, parce que sans la commande hors presse et édition, je pourrais pas vivre de la photo, ou alors très chichement, et j'aurais pas un très bel appareil photo.
Alors, pour terminer, on va essayer de prodiguer des conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer, imaginer, construire un projet de voyage photo. Alors, il y a évidemment deux grandes manières de procéder. On peut tout faire tout seul, évidemment, ou on peut essayer de se faire accompagner par une agence spécialisée. On vous propose d'écouter le témoignage de Vincent Française de l'agence Photographe du Monde, nous parler de la manière dont ils conçoivent leur voyage photo.
Le premier aspect, c'est un aspect vraiment purement logistique qui ressemble à de la planification de shooting, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire tel ou tel type d'image, donc en fonction soit des phénomènes naturels, soit des saisons, soit des fêtes ou des événements, ou bien en fonction d'un travail d'un photographe, par exemple un photographe qui a fait un travail sur la street photo en Belgique, on va travailler autour de ce qu'il va nous dire en fait sur ce qu'on peut faire en street photo en Belgique. Et évidemment, ce sont des phénomènes naturels, ça va dicter la planification logistique, la planification d'agenda, on va dire, c'est-à-dire à quel moment on doit faire de la photo. Pour le reste, on s'occupe du coup de fluidifier au maximum toute l'organisation logistique, donc c'est-à-dire hôtellerie, repas, transport, pour permettre au photographe de ne penser qu'à ses photos, qu'à sa photo, qu'à sa manière de réaliser de la photo. Donc en fait, on est un facilitateur de réalisation d'images. Donc ça, c'est l'aspect logistique, le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect plutôt artistique, c'est-à-dire qu'on va être dans l'apport d'une manière de faire ou de réaliser des photos au travers de l'expérience d'un photographe accompagnateur qui est un artiste qui accompagne des personnes sur le terrain. Et cette deuxième manière de faire, évidemment, va venir croiser l'aspect logistique. Donc, on adapte l'aspect logistique à l'aspect artistique, à ce que peut apporter un photographe sur le terrain. Donc, nous, on n'est pas du tout arrêté, on va dire, à cacher nos circuits, par exemple, ou à ne pas révéler les lieux où on va. Tout ça est totalement accessible sur notre site. Tous nos parcours sont accessibles sur notre site, les jours par jour, les pourquoi on y va, tel jour ou telle heure. Donc, on voit très bien qu'on peut très bien aller sur des spots. On n'a pas besoin de nous pour aller sur des spots photos. C'est pas du tout notre métier de d'amener des gens sur des spots. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est d'amener, si vous voulez, d'accompagner les voyageurs à réaliser leur propre approche d'un lieu et pas simplement de faire l'image qu'ils ont déjà vue. Tous nos voyages, en fait, respectent ce qu'on pourrait appeler le fair trade, c'est-à-dire on passe par des acteurs locaux. Et on fait de la redistribution locale. Ça tombe sous le sens quand on est photographe et qu'on se sent, si vous voulez, responsable de l'impact que l'on a et de la relation que l'on entretient avec les autres. On a une responsabilité énorme parce qu'on emmène beaucoup de personnes en fait sur le terrain, c'est-à-dire au contact de ces écosystèmes à protéger. Donc on a une immense responsabilité par rapport à ça. Et donc nous, concrètement, on limite le volume. On fait qu'un seul voyage au Spitzberg, on fait un voyage aux Malouines en voilier, on fait beaucoup de voyages en France et en Europe, on privilégie le train et le covoiturage, et on privilégie des projets plus locaux, on est tous groupés les uns les autres, et on divise en fait notre impact aussi par le fait de se regrouper hein, lors de ces voyages.
Toi Brice, dans la préparation de tous ces voyages que tu fais ça tout seul ou tu te fais aider ?
Ah, j'aimerais bien avoir une équipe qui m'aide, mais non, je fais ça tout seul. Je fais ça tout seul, sauf quand c'est de la commande, évidemment. Là, t'as des grosses équipes et autres, donc ça n'a rien à voir. Et c'est pas de la photo de voyage, mais pour ce qui est de photo de voyage, ouais, que ce soit des projets personnel ou les reportages en général. Il y a quelqu'un qui s'occupe des billets d'avion, etc., des hôtels. Mais pour ce qui est projet personnel, oui, je m'occupe de tout seul, évidemment.
Et ça pourrait t'intéresser de partager sur le terrain avec des gens, d'accompagner, parce que il y a certains photographes voyageurs qui le font, notamment pour Photographes du Monde, c'est-à-dire d'accompagner des gens et faire des sortes de workshops comme ça sur le terrain où tu as vraiment, toi, besoin d'une bulle. Parce que le photographe voyageur est quelqu'un d'un peu égoïste aussi.
Non, j'ai pas envie de faire ça avec des gens, parce que j'adore... En fait, pourquoi pas, mais ça n'aurait rien à voir. Ce serait à ce moment-là un job, ce serait un workshop. Et à ce moment-là, tu es dans une logique de partage, de pédagogie. Ça, oui, mais si c'est un projet personnel, d'avoir d'autres gens dont je dois m'occuper, ce serait contre-productif. Donc, je pourrais pas faire le travail pour lequel je suis parti. J'essaierai de faire deux choses en même temps et ça ne fonctionnerait pas. Donc sur un projet personnel, de partir avec un groupe, non. Mais de plus tard peut-être. Pour l'instant, j'ai pas mal de choses à faire déjà, pas mal de choses de prévues. Mais plus tard, pourquoi pas. Mais dans l'immédiat, non.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui voudraient se lancer? Peut-être pour commencer par le choix de la destination. Comment on fait pour choisir une destination?
Bah, on va
la logistique, tout ce qui va avec, quoi.
On fait tourner le globe.
On va là où on veut, exactement. Non, on va là où on veut, là où ça a du sens pour nous. On va pas forcément très loin. Ça peut être un piège de se dire je pars loin donc ce sera bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. On va là où ça a du sens pour nous, là où on a envie d'aller, là où on sera inspiré. Et puis surtout, c'est bien de se laisser surprendre par le voyage sur place, certes, mais c'est bien de préparer les choses aussi, de savoir à peu près à quoi on va avoir affaire, les éventuels dangers, les éventuelles contraintes, les éventuelles différences culturelles, tout ça, de manière à pas arriver avec un objectif ou un boîtier à 15 000 euros dans un endroit où les gens vivent avec 100 dollars par mois, tu vois, ne serait-ce que ça. Je sais que quand je vais dans des endroits où le niveau de vie est très faible, je mets du gaffeur partout sur mon boîtier, j'essaie d'éviter d'attirer l'attention, et ne serait-ce que par décence, pour éviter d'avoir un truc trop brillant.
Ostentatoire.
Voilà, c'est ça, et puis pour éviter les problèmes aussi. Mais voilà, il faut préparer un minimum son voyage et aller là où ça a du sens pour nous. Il faut être inspiré sur place.
Tu vois, mettre quelques filtres dans la demande. Si on a 3 semaines qu'on veut voyager en Europe sans prendre l'avion, t'as ouais. Quoi comme destination sympa? Aller 2-3 destinations sympas pour l'été.
La Norvège, c'est
très
bien.
En photo, hein.
En photo. Ouais, mais la Norvège, c'est génial parce qu'on peut le faire avec peu d'argent. C'est ce que j'ai fait pour l'un de mes premiers voyages, c'était là-bas. C'était en Norvège avec un copain. On est parti avec très peu d'argent et en fait en campant partout. Tu peux faire du camping sauvage quasiment partout en Norvège, donc ça facilite quand même les choses et il y a peu de risques. Tu vois, tu vas pas te faire charger par un animal sauvage au milieu des bois. Donc voilà, la Norvège, la Roumanie, c'est un très très beau pays. Une bonne période pour y voyager, c'est à la fin de l'été, au mois de septembre, quand les couleurs d'automne commencent à arriver. Même début octobre, ça peut être pas mal. Les vallées pleines de brume, la moisson des foins. Il y a une ambiance, surtout dans le nord de la Roumanie, qui est assez spéciale, très ancrée dans le... Pas ancrée dans le passé, mais intemporelle, en fait.
Rustique.
Ouais, très rustique. J'ai un merveilleux souvenir de nourriture là-bas. Ils boivent beaucoup les Roumains, faut se méfier. Mais
en Europe de l'Est, hélas, oui.
Eh oui, ouais. Mais sinon, troisième destination, moi j'aime bien les pays froids, donc je dirais le nord de la Finlande en hiver, au mois de janvier, quand il y a très peu de lumière, tout début janvier, le 10 janvier, t'y vas, il y a quelques heures de jour, mais la lumière est magnifique. T'as un peu envie de déprimer parce que le soleil te manque, mais c'est une ambiance que j'ai adorée. Et quelques fois où j'ai eu la chance d'y aller.
Bon, eh ben écoutez, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Brice, d'avoir partagé tout ça avec nous et nos auditeurs.
Merci à vous.
On passe à la suite. Nous sommes toujours avec le photographe Brice Portolano pour cette grande émission dédiée aux photographes voyageurs. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Brice, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante conversation. Alors Brice, peut-être pour commencer, pourquoi, selon toi, le XXe siècle est considéré un peu comme l'âge d'or de la photographie de voyage ?
Parce qu'on a réussi à faire des objectifs, des appareils photos un peu plus compacts que ce qui était le cas avant, et ça nous a permis de partir explorer le monde avec un fabuleux outil.
C'est quoi, toi, ta vision de la photographie du voyage ? Comment tu la pratiques ?
Moi, je la pratique avec un regard avant tout personnel. Pour moi, c'est un point de vue subjectif. L'objectif, c'est pas de montrer ce que tout le monde a vu avant, c'est de montrer ça, la manière dont on a vécu, nous, le voyage et le regard qu'on peut porter sur un pays, sur des paysages, sur des gens, avec un prisme très personnel.
Et comment on peut, comment toi tu fais pour t'inspirer et pour trouver justement ces idées de sujets et d'angles originaux pour toujours réussir à surprendre les observateurs ?
Alors je ne sais pas si je surprends toujours les observateurs, mais moi je puise mon inspiration beaucoup dans la littérature et le cinéma.
Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, voudraient s'inspirer un petit peu, on peut se replonger dans les livres. On a cité pendant l'émission Olivier Folmy, Steve McCurry, Eric Valli, Mathieu Pallet, ouais, qui ont été des photographes voyageurs assez marquants du XXe siècle, qui peuvent donner aussi des idées de sujets. Je repense aux chasseurs d'abeilles photographiés par Eric Valli sur des parois vertigineuse de l'Himalaya, ça inspire.
Ah ouais, les chasseurs de miel, c'est très beau, très beau, très beau sujet. Et Mathieu Pallet aussi fait d'excellentes photos.
Quelles sont, selon toi, les principales qualités que doit avoir un photographe voyageur ?
Alors, réussir à dormir dans des endroits inconfortables, parler un tout petit peu l'anglais et avoir une grande capacité d'adaptation, je pense que ça, c'est quand même assez indispensable quand on voyage.
Paré à l'imprévu.
Toujours.
Comment un photographe voyageur peut financer ses voyages et même aller vivre de son métier ?
Ça, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est réussir à financer ses projets. Pour moi, c'est à la fois l'édition, la presse et la publicité. On va dire 20% d'édition, 20% de presse et 60%, oula, 60% de publicité. La commande, en fait.
Il y a encore des magazines qui financent des... reportage, c'est rare, mais on peut citer Géo France, Le Figaro Magazine, par exemple,
ouais,
avec qui tu travailles notamment.
Ouais. On arrive en tant que photographe à trouver des magazines qui financent. Ça se fait rare, mais voilà. Après, par la commande commerciale, on arrive aussi à avoir des budgets plus intéressants qu'on arrive ensuite à réinjecter dans des projets personnels. Voilà. Après, chaque photographe a vraiment son business model unique, son équilibre financier unique. Ça dépend foncièrement de son travail, de où il vit, de sa personnalité, de ses contraintes, ses besoins.
Quelles sont, selon toi, les responsabilités du photographe voyageur en termes de la préservation des écosystèmes, en termes d'empreinte carbone et de respect des peuples visités ?
Je pense que si on va loin et qu'on prend l'avion pour aller loin, il ne faut pas le faire juste pour quelques jours. Il faut essayer de grouper des projets, de faire un voyage qui ait vraiment du sens. Et ensuite, on n'est pas obligé d'aller loin. On peut faire d'excellentes choses à proximité de Paris, de la France. On peut aller en Europe en train très facilement. Ensuite, en termes de responsabilité vis-à-vis des gens photographiés, ça dépend de l'éthique personnelle des photographes, mais... Moi, je mets un point d'honneur quand même à ne pas forcer les gens à poser pour moi. C'est vraiment une collaboration quand quelqu'un pose pour moi. C'est quelqu'un qui est volontaire, c'est quelqu'un avec qui j'ai noué un lien avant, avec qui j'ai échangé quelques heures ou quelques jours. Mais voilà, c'est une collaboration. Donc, il ne faut pas débarquer dans un coin et se mettre à mitrailler les gens. C'est pas l'idée.
Et enfin, pour terminer, Brice, quel conseil pratique tu pourrais donner à un photographe pour l'aider dans la préparation et la réalisation de son projet ? Alors, des conseils ou des erreurs et des pièges à éviter ?
Alors, je pense qu'il faut éviter de prendre trop de matériel. Il faut réussir à se contenter de quelques objectifs, voire un seul, si on est vraiment, si on a le goût du challenge. Réussir à ne pas prendre trop de matériel et bien préparer son voyage, je pense que c'est pas mal pour avoir une idée des images qu'on va ramener. Et ça permet d'anticiper et ça permet aussi de faire des images qui vont être différentes.
Tu regardes le site du ministère des Affaires étrangères avant de partir?
Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive.
Les voyageurs, surtout en ce moment, ça peut être pas mal pour les ggens qui veulent aller explorer des contrées entre deux pays en conflit.
Oui, c'est valoir le coup. Alors parfois, ils se couvrent beaucoup, hein, le ministère des Affaires étrangères, mais
faut pas le prendre au pied de la lettre. Ouais.
Voilà, mais il vaut mieux prendre de trop grandes précautions que pas assez. Mais oui, jette toujours un coup d'œil au cas où, et puis je surveille l'actualité évidemment. Parfois, il y a des projets comme ça qui ont été annulés au dernier moment parce que les zones sont devenues trop dangereuses un peu au dernier moment. Donc c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Et puis, c'est pas dramatique si un photographe ne peut pas partir. Il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent sur place. Donc, voilà, c'est pas très grave. Mais c'est effectivement important de se renseigner sur tout ce qui est actualité pour la sécurité sur place.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. On passe à la dernière partie de cette émission et on attaque le traditionnel quiz. Brice, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible.
Très bien.
As-tu bien compris la consigne?
J'espère.
Alors on y va. Première question qui nous vient de Sarah Baron. Comment photographier les gens chez eux dans leur quotidien sans déranger?
C'est pas évident parce que quand on va chez les gens, on les dérange. Il faut créer un lien, je pense, avec ces gens-là. Boire une tasse de café, discuter de tout, de rien, gagner leur confiance et réussir à faire en sorte qu'ils soient partants pour poser pour toi. Et à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile. Il ne faut pas débarquer et les shooter directement. Créer un lien avant.
Tu as souvent eu des refus ou des murs qui se sont...
Ça m'est arrivé, mais ça fait partie du jeu. C'est pas grave.
Deuxième question qui nous vient de... Oh là là, c'est pas facile ça comme pseudo.
Weingartner.
Merci Benjamin. Weingartner.
C'est un autrichien ça.
Point photo. Comment choisir entre le poids du sac et son matos photo?
Bah, c'est une décision qui t'appartient. Voilà. Bon courage.
Jusqu'à combien de kilos es-tu prêt à aller?
Oui, après, voilà, il ne faut pas se casser le dos non plus, mais c'est bien d'avoir quelques choix dans les optiques. Il faut bien réfléchir.
Et devant les smartphones de plus en plus performants, tu n'as pas succombé
Parfois, je prends uniquement mon smartphone, mais c'est quand je pars faire une randonnée classique. Simplement un seul objectif, ça peut suffire. Un 24-70, ça peut tout à fait faire l'affaire.
Troisième question qui nous vient de P. Bernardon, fidèle auditeur. Quel est le pays qui vous a le plus séduit au niveau photo?
Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense que c'est pas le pays, c'est les gens. Je pense que les gauchos de Patagonie, ça a été pour moi un vrai voyage dans le temps que j'ai adoré et que je pourrais photographier longtemps.
À cheval du coup?
À cheval, à pied pendant que eux sont à cheval. Mais oui, en général, ils sont à cheval. Et moi aussi, du coup. Et voilà, c'est vraiment un vrai voyage dans le temps que j'adore. Donc, l'Argentine.
Quatrième question qui nous vient de Steph Barca. Qu'est-ce qui fait un bon appareil photo de voyage?
Alors, un appareil photo de voyage qui est bien... C'est un appareil photo qui est résistant à la poussière, à l'eau, au froid, à la chaleur, au choc, à tout quoi.
Et donc le Canon EOS R5 rentre dans cette catégorie selon toi?
Moi je dirais le Mark IV quand même. R5 il est bien mais on commence à devenir un peu fragile, il y a beaucoup d'électronique. Et le Mark III n'en parlons pas, il résistait à -50 degrés, ça c'était quand même exceptionnel.
Et ton Mamiya, tu nous parles un peu de ton Mamiya 645, là, juste pour faire un peu rêver les gens, je précise que c'est de l'argentique moyen format.
Ouais, bah le Mamiya 645, c'est le AF, donc il ressemble à un gros boîtier réflexe. Hein,
visé par le dessus ou t'as ça. Un viseur
traditionnel? Non, un viseur traditionnel et t'as l'autofocus, donc c'est très confortable. Bah, il est très bien, après il résiste pas forcément très bien voilà, à la poussière. L'argentique n'aime pas trop la poussière. Je ne l'ai pas testé en conditions de grand froid, mais voilà, il se débrouille très bien dans des conditions classiques. C'est un vrai plaisir de shooter avec.
Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. S'il ne te restait qu'une seule opportunité pour faire un dernier voyage, tu choisirais quelle destination et pourquoi ?
Ah, c'est pas facile ça. Il y a beaucoup de voyages que je veux faire encore, mais je pense l'Alaska. L'Alaska parce que les États-Unis m'ont toujours fasciné. Et l'Alaska aussi. L'Alaska, c'est une terre unique. Les gens qui vivent là-bas sont assez uniques en leur genre pour le meilleur et pour le pire. Et donc, l'Alaska.
Il faut voir avec notre ami Vincent Française. S'il propose des choses en Alaska, je ne suis pas sûr, mais peut-être. On verra ça. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Nous sommes à la fin de cette émission. Brice, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager autant à nos micros avec nous et nos auditeurs. C'est le moment de l'actu de l'invité. Quelles sont tes actualités en ce moment ?
Alors, en ce moment, je prépare de nombreux projets personnels, mais j'ai pas grand-chose à dire. Hein. J'ai publié deux livres. Pour l'instant, je suis en train de travailler sur le développement de ces nouveaux projets-là.
Tu peux y aller, on a coupé l'enregistrement, vas-y.
Non, mais il n'y a pas vraiment d'actu. Hein. C'est du work in progress, donc ça sortira le moment voulu, mais pour l'instant, ça reste...
Bon, avoir ton sourire, ça a l'air sympa.
Oui, c'est plutôt sympa. Puis il y a des commandes sympa aussi, des beaux voyages, des chouettes projets.
Bon,
on ne s'ennuie pas.
Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous.
La semaine prochaine, on vous propose une très belle émission au coin du feu avec la photographe Agathe Poupenet qui va nous parler de sa spécialité dans la photographie de danse et de spectacle vivant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.